cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 17 juin 1987.
Nous allons continuer d'essayer de préciser ce que représente ces diverses modalités de la personne humaine. Alors, je vous disais hier en terminant comme l'amour d'amitié doit développer en nous ce type particulier de la personne humaine qui atteint sa première finalité. Oui, bien que c'est dans la mesure où l'homme atteint sa fin, son bien. Donc, dans la mesure où il y a un certain dépassement par rapport à son autonomie propre et substantielle, qu'on peut dire que la personne se structure. Ce dépassement. C'est pour ça que c'est si délicat à bien préciser. C'est toujours très difficile de bien préciser ce que représente le dépassement du « je suis » qui est impliqué dedans. Puisque le « je suis » implique l'esprit, implique donc le point de vue de l'intelligence et de la volonté. Se découvrir et être pleinement lui-même que dans la mesure où il aime, dans la mesure où il se laisse attirer par ceux qui le finalisent. C'est la personne humaine en tant que choisie comme amie. C'est bien dans ce choix amical qui se fait tout le temps, se réalise toujours plus profondément que la personne humaine se découvre et se stabilise. C'est une stabilité qui ne vient pas du tout de la substance, mais qui vient de la fin. On pourrait dire une stabilité dynamique. Mais ça, c'est des expressions qui veulent montrer justement que cette stabilité se fait tout le temps. Ce n'est pas une chose acquise. C'est ça qui est très mystérieux dans le propre de l'amour. Ce n'est pas une chose acquise. On est possédé par le bien plus qu'on ne possède. Comme pour la vérité. On est possédé par le bien. On est attiré par le bien. Posséder le bien, ce n'est plus entièrement le bien, c'est vous. Tandis que quand vous êtes proprement possédé par le bien, c'est-à-dire attiré, c'est là la finalité. C'est toute la différence entre la détermination qu'on possède, une qualité qu'on possède, et le dépassement de soi. Et la fin, c'est ce qu'il nous a dit. Donc c'est ce qui nous dépossède de nous-mêmes pour être saisis par quelque chose de plus grand que nous. Et en même temps qu'en étant possédé par quelque chose de plus grand que nous, on est parfaitement soi-même. Alors, je terminais hier en soulignant ce caractère tout à fait particulier de ce choix amical. C'est l'ami comme mon bien, comme une personne qui est proprement mon. bien et qui m'attire. Et c'est en le choisissant qu'il devient mon ami. Et dans la mesure où je sais qu'il me choisit, donc que ce choix devient réciproque, qu'il y a comme une liberté intérieure, beaucoup plus profonde, dans une totale confiance. Alors il faut bien comprendre que par le choix, je ne dis pas que je fais mon ami, puisque l'amour provient de ce bien qui est antérieur à mon choix. C'est la personne humaine, en tant que spirituelle, en tant que représentant un certain absolu, en tant qu'incapable d'être mon bien et de me finaliser, qui détermine mon amour. Et je reconnais cet amour en le choisissant. Et à ce moment-là, ce bien est explicitement mon ami. Et c'est proprement cet amour choisi en tant que mon bien, en tant que mon ami, qui détermine d'une manière ultime ce qu'est ma personne. D'une manière ultime, comprenez bien. Pas d'une manière ultime, d'une façon absolue, puisque au-delà de l'amitié, il y a la contemplation et l'adoration. Mais au niveau humain, il y a une première détermination, une première découverte de la fin, qui est vraiment la personne de l'ami, qui est l'ami. Alors, il faut bien comprendre que c'est l'ami en lui-même, en tant qu'il est une personne, qui m'attire et qui me détermine. Mon choix explicite cela et montre ce lien entre lui et moi-même. Et c'est dans ce sens-là que je déclare qu'il est mon ami. Et il n'est pleinement mon ami que lorsque je sais que lui-même me choisit. Vous voyez, ça peut paraître contradictoire, mais c'est justement simultané dans l'ordre spirituel. Si on était dans un ordre de devenir physique, ce ne serait pas juste. Tandis que dans un ordre spirituel, il peut y avoir cette espèce de simultanéité. Et en même temps, il faut préciser que ce qui détermine et ce qui spécifie mon choix, ce n'est pas le fait que mon ami m'a choisi, mais le fait qu'il est une personne, qu'il est un certain bien spirituel. Mais cette personne elle-même n'est parfaite que quand elle atteint sa fin. Et donc quand elle-même a découvert en moi quelque chose d'absolu. Oui, ce don réciproque de l'ami à l'égard de son ami, ce don réciproque permet à l'ami d'acquérir sa finalité et me permet à moi-même être son bien. Ce n'est pas contradictoire, puisque c'est tout le lien entre connaissance et amour qui, dans l'ordre de l'amitié, implique cette réciprocité. Cette réciprocité est une condition sine qua non, mais pas une spécification. Il faut qu'il y ait cet amour mutuelle pour que je puisse atteindre le secret de la personne humaine, pour que la personne humaine devienne vraiment pour moi un bien absolu. Mais ce n'est pas le fait qu'il m'ait choisi qui détermine mon amour. Et c'est assez délicat. C'est toute la question de la détermination propre de l'amour qui se fait par le bien et qui ne se fait pas par la connaissance. Ceci, c'est tout l'ordre de la volonté que nous devons découvrir de cette manière. Amical dans cet amour gratuit et dans cet amour à l'égard d'un bien spirituel, je me détermine fondamentalement et je découvre qu'il y a en moi un besoin d'absolu et que ce besoin d'absolu, je le découvre progressivement. Parce que l'amour d'amitié, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas de l'ordre de la substance, c'est de l'ordre de la finalité du bien. Et donc c'est quelque chose que je découvre progressivement et de plus en plus. Et d'une certaine manière, qu'il n'y a pas de limite. Je ne peux jamais dire c'est suffisant. C'est là où il y a une espèce de perte d'autonomie pour quelque chose de plus grand qui est d'être attiré vers un bien qui m'agrandit, vers un bien qui me finalise, vers un bien qui me donne à toute ma vie sa signification. C'est donc bien parce que la personne humaine est un certain bien absolu que l'amitié peut structurer la personne humaine. Je vois donc, si vous voulez, qu'il y a ces deux aspects qui structurent la personne humaine, la contemplation et l'amour d'amitié. Quand cela, nous pouvons le saisir assez bien. Dans cet amour d'amitié est impliqué toute la recherche éthique au point de vue des vertus. L'ami exige de moi d'être toujours plus parfaitement ce que je dois être comme personne humaine. Donc l'acquisition des vertus, l'acquisition des qualités. Parce que je sais que cet amour d'amitié va pouvoir s'agrandir dans la mesure même où ma propre personne humaine va devenir de plus en plus qualitative. Et autrement dit, c'est là où on saisit bien ce que saint Thomas dit à propos du bien et du bien de la personne humaine. Le bien implique l'exister, les qualités et la finalité. Je ne suis vraiment le bien de mon ami que parce que j'existe, que parce que je m'ennoblis par mes qualités et parce que je suis moi-même finalisé. Je me finalise progressivement et pour me finaliser, je m'ennoblis par l'acquisition des vertus et des habitudes. Je deviens de plus en plus qualitatif, si vous voulez. Et ceci est commandé par l'amour d'amitié. C'est pour ça que ça prend toute ma personne humaine. En faisant que cette personne humaine s'ennoblisse au sens propre de la qualité. Dans l'ordre de l'intelligence et dans l'ordre surtout moral. Mais dans l'ordre de l'intelligence et l'ordre du travail, dans l'ordre moral. Autrement dit, un ami n'est vraiment un ami que quand il comprend qu'il doit tous les jours redécouvrir plus profondément sa finalité. Ça explique, si vous voulez, comment il peut y avoir des amitiés qui avortent. Parce que justement, on croit que c'est acquis. Et on ne voit pas suffisamment que c'est de l'ordre de la finalité. Dans notre monde d'aujourd'hui, où le point de vue de la finalité a tellement disparu, on ramène l'amitié à un avoir. Et c'est ce qui explique comment l'amitié n'est plus ce qu'elle doit être. L'amitié implique ce dépouillement de soi. Pour que l'ami demeure mon bien, il faut que lui-même soit possédé par le bien qu'il finalise, et donc qu'il soit dépossédé. Et qu'il soit de plus en plus vrai. C'est pour ça que c'est la chose la plus difficile. La réalité la plus difficile, c'est de vivre d'une amitié. Au point de vue humain, c'est plus difficile. La contemplation, c'est sûr. Mais au point de vue humain, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est plus facile d'acquérir les vertus que de maintenir en nous une véritable amitié. Parce que ça nous dépouille complètement de nous-mêmes. Tout amour propre, tout instinct de propriétaire va contre l'amour d'amitié. Va contre cette dépossession de soi pour aimer. Oui, c'est là où certains passages du Banquet de Platon montrent bien. jeunes supportent difficilement l'amour d'amitié. Aristote le dit. Parce qu'ils sont dans les passions. Et que c'est très éprouvant pour les passions. Parce que ça exige d'aller beaucoup plus loin. Ça exige l'acquisition des vertus. Et c'est là où on comprend comment l'amitié structure. Parce que les vertus morales qui sont exigées pour une amitié véritable, la tempérance, la force, la justice et la prudence, sont le soubassement de la personne humaine. Et je crois que c'est très important de bien comprendre comment ces vertus dites cardinales aujourd'hui, on doit les voir dans la lumière de l'amour d'amitié. Parce que nous avons beaucoup de peine d'acquérir les vertus. Et on a une exigence interne d'accepter les vertus que dans la mesure où elles sont finalisées. Ça, c'est très bien, du reste. C'est supprimer l'aspect du formalisme des vertus que le XVIIe siècle et que les stoïciens avait mis en pleine lumière. Nous sortons, si vous voulez, de ce stoïcisme, de certaines formes d'éducation chrétienne qui étaient particulièrement fortes dans tout jansénisme. Et nos bonnes familles chrétiennes, je parle en France, je crois que dans beaucoup de pays européens, c'était comme ça. Les anglo-saxons, c'est différent. Ils échappent toujours un peu au formalisme. Mais ils tombent dans d'autres défauts. Mais le défaut français, c'est le formalisme, ça c'est sûr. C'est le défaut cartésien. Et Port-Royal montre ça de façon très, très extraordinaire. C'est pour ça que c'est quelquefois bon de relire certains textes de Port-Royal, de regarder ce que représente le vernis du XVIIe siècle. Qui est encore une fois très loin de nous, hein, mais qui reprend, c'est très curieux. Or, c'est bon de voir que les vertus cardinales structurent la personne humaine du côté disposition, pas du côté finalité, mais du côté disposition. Vous voyez, et nous retrouvons cette chose très curieuse de la structure de la personne, vous vous souvenez, sécurité, point de vue psychologique. Dès qu'on est trouvé au niveau des vertus et des passions, on est très proche du point de vue psychologique. Parce que les vertus, c'est quand même notre conditionnement, ainsi que les passions. Sécurité, autonomie, valorisation. Voilà la structure de notre moi. Je ne dis pas du je suis, mais de notre moi psychologique. Donc notre conditionnement psychologique de notre personne, c'est sécurité, autonomie, valorisation. Eh bien, je crois regardé tourner vers lui. Et j'ai conscience de cela. Quelqu'un qui dira, j'ai pas conscience que je suis ton ami. Y a rien qui blesse plus. Il y a une conscience et une lucidité qui vient de la prudence. Vous voyez ? Alors, ça rejoint le moi psychologique, mais ça lui donne une autre grandeur. Et ça rejoint le sentiment du moi au niveau psychologique. Le sentiment du moi est sublimé, ou plus exactement, est assumé dans le point de vue de la prudence. La prudence sait que mon bien, c'est l'ami. Et c'est le bien de l'ami. Et c'est l'ami en tant qu'il me tire. Donc la prudence me donne le sens de la noblesse de l'ami au niveau proprement philosophique. Ensuite, le point de vue de la force. Prenons la valorisation, la tempérance. La vertu de tempérance maintient le véritable amour. Le point de vue de la justice. Sécurité et autonomie, vous voyez. Justice et force. Je crois que nous pouvons mettre de cette manière-là. C'est que la force me permet de regarder le futur. La vertu de force me sécurise. Ça, c'est très net. Quand vous voyez quelqu'un qui faiblit au point de vue de la sécurité, alors on sait très bien, mettez le parallèle, toujours. Aliénation, n'oubliez jamais. Culpabilité. Parce que c'est quelquefois les aspects négatifs qu'on comprend le mieux. Et angoisse. L'angoisse provient d'un manque de force. Pour lutter contre l'angoisse pied à pied, il faut se fortifier. La vertu de force. Et vous savez bien que la vertu de force, elle s'est exercée dans notre jeunesse, devant l'autorité. C'est quand il y a manqué d'autorité qu'on a favorisé l'angoisse. Si on a eu une autorité en face de nous, qu'on ne s'est pas trop rébellé contre, et qu'on a on se rébelle toujours un peu. Il y a un âge, on s'est tous rébellés contre l'autorité, c'est bien évident. Mais quand on a rongé l'os de l'autorité, petit à petit, qu'on était devant quelqu'un qui avait vraiment l'autorité, un père qui avait une autorité, on a été furieux. Et puis après, on reconnaît assez bien. Ça nous a donné la vertu de force qui a empêché, qui a diminué l'angoisse et qui nous a donné une sécurité. La justice donne le sens de l'autonomie, parce que ça donne le sens de l'autre. Et c'est toujours par le sens de l'autre que je comprends l'autonomie. Et c'est ce qui enlève l'aliénation, la justice. La vraie justice fait disparaître l'aliénation. Et le point de vue de la tempérance me permet d'avoir un amour vrai. C'est vrai, quand je manque de tempérance, tempérance et chasteté, c'est ça qui valorise. Il n'y a rien qui augmente la culpabilité plus que le manque de chasteté et de tempérance. Et tout ça est commandé par la prudence. Voyez, la structure fondamentale de l'amitié rejoint le point de vue des sentiments du moi au point de vue psychologique. C'est ça qui est très intéressant. Et je les retrouve alors, je ne dis pas sublimés dans l'amour d'amitié, mais complètement assumés dans l'amour d'amitié. Réfléchissez un instant sur l'expérience de... personne humaine, oui, parce que l'amour d'amitié présuppose les vertus cardinales. Et c'est grâce à l'amour d'amitié que j'accepte cette auto-éducation. Tant que j'ai subi une éducation, alors nous avons tous subi une éducation jusqu'à 14 ans, quelquefois 17 ans. Quand on avait un père très autoritaire, on a subi une éducation jusqu'à 17 ans. À ce moment-là, le volcan a éclaté. Et si, à la famille, c'était suffisamment conventionnel, ça n'a pas éclaté. On a mis beaucoup de vernis pour que ça n'éclate pas. On a resserré les égouts. Alors ça éclate après. Mais c'est vrai, il faut reconnaître ça, qu'on a subi une éducation. Tant qu'on subit une éducation, il n'y a pas de personne. Il y a un individu propre. Vous voyez comme il est bien, mon fils. Il s'est jamais révolté contre l'autorité. Chaque fois que j'entends les pères disant ça, quand un père dit ça, j'ai une frousse intense d'attendre la révolte derrière son dos. Après, oui, c'est merveilleux. Et c'est vrai qu'une certaine éducation chrétienne, une éducation paroissiale, janséniste, main des hommes. C'est un type d'éducation que je précise pas, vous voyez bien, qui maintenait ça, les égouts bien serrés. Le prototype d'un collège chrétien qui donnait cette éducation-là. Et en France, c'est très français, ça. Quand vous regardez l'éducation anglo-saxonne, très différente. Et quelqu'un comme Jean Vanier, je prends parce que je le connais bien, représente bien l'éducation anglo-saxonne. Mais c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait différent. Il y a d'autres difficultés, c'est d'autres. Mais ça représente quelque chose qui est une souplesse que nous n'avons pas en France. Et que nous n'avons pas eu. Alors, on comprend certaines révoltes et certains aspects d'opposition. Si je construis une personne, je dois construire une personne finalisée par l'amour d'amitié. Et cet amour d'amitié implique cette auto-éducation de la force, de la justice, de la tempérance et de la prudence. Et tant qu'on n'a pas cette auto-éducation soi-même, rien ne marche. Oui, c'est le passage du noviciat. Au noviciat, on est des adultes. On est finalisé. Mais quand même, on entre dans quelque chose de nouveau. La profession réclame une auto-éducation beaucoup plus forte. Mais la profession perpétuelle, encore beaucoup. Il ne faut pas dire maintenant je suis libéré du noviciat, pas du tout. Vous devenez novice du Saint-Esprit. Et ça va plus loin. Et ce qu'on vous a donné au noviciat doit être encore plus vécu de l'intérieur. Maintenant, je quitte le noviciat, je suis libéré, c'est petit coq. À ce moment-là, ça vaut qu'on n'a rien compris. C'est vrai qu'au noviciat, c'est forcé. Il faut que ce soit comme ça au noviciat. On doit accepter beaucoup plus de subir, de pâtir. C'est sûr, mais on subit et on bâtit avec le plus d'intelligence possible, le plus d'amour possible, parce qu'on entre dans un autre genre de vie. Je crois que la parole de saint Thomas reste très vraie. La vie religieuse, alius genus vitae. La vie religieuse est un autre genre de vie, parce que c'est vivre autant qu'on béatitude évangélique. Alors, jusque-là, on n'a pas beaucoup pensé aux béatitudes évangéliques. Alors, ce sont des plis que doit l'éducation, on doit bâtir. Autrement, il n'y a plus d'éducation. Celui qui dit « Ah, moi, je veux pas bâtir. Je veux rien accepter de l'extérieur. » Parce qu'il faut violenter autrement. Alors, on a la spiritualité des arbres avant. Faut jamais oublier ça. La spiritualité des arbres avant. La spiritualité des arbres avant, c'est celui qui n'accepte pas la taille du père. La taille du père, on bâtit. Donc, dans toute éducation, on bâtit. Et en même temps, on agit volontairement. Donc dans toute éducation, il y a une auto-éducation. L'obéissance se fait à deux. Une obéissance où on bâtit uniquement n'est pas l'obéissance. Or, la clé de toute éducation, c'est l'obéissance. Mais il y a diverses manières d'obéir, ça c'est sûr. Dans toute obéissance, vous bâtissez. Et dans toute obéissance, vous avez un acte volontaire. Et alors, il y a une obéissance où on a plus d'initiative, mais on veut coopérer toujours. Et dans la règle de vie, quand on dit que chaque membre de la communauté est responsable de la communauté, on veut montrer devenons des personnes autonomes, mais qui vivent dans la dépendance de l'Esprit Saint, donc dans l'obéissance, que si tout le temps on accepte de bâtir, le jour où vous n'acceptez plus de bâtir, vous n'obéissez plus. Donc il n'y a plus d'éducation. Il n'y a plus de progrès. Le grand élément du progrès, c'est l'obéissance. Ça, c'est sûr. Dans toute vie, vous ne progressez que quand vous obéissez. C'est l'élément d'efficacité, l'obéissance. Hein. C'est pas. Et cette efficacité n'est vraie que si à l'amour. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements. Alors je crois que ça, c'est très important à comprendre. C'est toute la structure de notre personne éthique. Et la personne humaine est premièrement éthique, elle est morale. Elle est morale dans l'amour d'amitié. Et dans l'amour d'amitié, il y a donc ces liens qui doivent se structurer. Si vous supprimez la force, si vous supprimez la justice, si vous supprimez la tempérance et la prudence, vous aurez un amour d'amitié qui sera fondé directement sur les passions. Et donc, qui n'aura plus aucune structure. Et cet amour d'amitié sera un amour d'amitié de jouissance. Et dans l'amour d'amitié de jouissance, il n'y a aucune personne humaine. C'est passager. La petite fleur, c'est ravissant, c'est merveilleux. C'est très touchant. Mais ça reste dans l'ordre passionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure. Ou alors, ce sera l'amour d'amitié utilitaire, ce sera l'efficacité. On va y revenir sur l'efficacité. C'est très curieux. En dehors des vertus, c'est la passion, l'efficacité. Vous avez des tempéraments passionnels du côté affectif. Alors c'est l'affectivité qui domine. Ou des tempéraments terriblement d'utilitaire. Ça se voit aujourd'hui. Primer la passion vers le point de vue d'utilité. Je veux dire un robot. Bien, ni l'un ni l'autre ne peuvent fonder l'amitié.
passe en disant que c'est le voisin. Non, non, c'est en vous. Heureusement qu'on est passionné. S'il n'y avait plus de passion en vous, il n'y aurait plus moyen de rien faire. Grâce aux passions, l'éducation peut se faire. Et les vertus peuvent être acquises. C'est la matière pour que les vertus puissent exister. C'est les passions. Donc un homme très passionné ou une femme excessivement passionnée, il y a une qualité possible aux vertus. Ça mettra du temps. Et puis, l'efficacité, l'Égypte. On construit des pyramides. Chacun construit des pyramides. Et on aime d'être un homme qui construit des pyramides. C'est très curieux. Vous voyez, il y a les deux. Passion. Alors, les passions, on comprend très bien, c'est tout notre psychisme. Et notre psychisme, c'est les passions. Et c'est l'efficacité en nous. Nous sommes des gens du 20e siècle. Et le 20e siècle est un siècle d'efficacité. Terriblement d'efficacité. Puisque c'est un siècle de construction. On est pris par l'efficacité de façon étonnante. On construit des pyramides aujourd'hui. Regardez la construction des autoroutes. Au Moyen-Âge, c'était les cathédrales. Aujourd'hui, c'est les autoroutes. C'est du reste très beau, ces constructions d'autoroutes. Regardez ça dans le Valais, regardez ça en France quand on passe en certains coins de l'autoroute qui va sur Genève.